Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, l'Église nous donne aujourd'hui l'évangile du bon pasteur et elle nous en donne l'interprétation que le Saint-Esprit nous révèle dans l'épître de Saint Pierre. Alors, si vous le voulez bien, un sermon en trois parties. Tout d'abord, Jésus est le bon pasteur, que cela signifie-t-il? Deuxièmement, il est le pasteur des brebis. Que sont les brebis et comment les secourent-ils, notamment dans la situation présente et dans les épines? Troisièmement, comment allons-nous répondre aux bons offices de notre bon pasteur? Premièrement, Jésus est le bon pasteur. La première qualité du pasteur, c'est la charité. Enfin, c'est l'amour, de ses brebis. Mais je vous ferai un jour un sermon sur l'amour et la charité. Tout amour a sa source dans l'amour de Dieu qui est charité. C'est la différence entre le mercenaire et le pasteur. Et si notre Seigneur nous fait cette comparaison, c'est bien pour nous définir ce qu'est le pasteur. Ce n'est pas une qualité accidentelle, c'est sa définition même. Le pasteur aime ses brebis. Et il les aime au point de donner sa vie pour elle. C'est pourquoi Saint Pierre nous le rappelle, le Christ a souffert pour nous, lui qui n'avait pas commis le péché, a souffert sur la croix et il a tout supporté pour que nous soyons morts au péché et que nous vivions dans la justice. Cet amour des brebis vient de très haut. Il vient de l'amour du bien, parce que pourquoi donnerais-je quelque chose à quelqu'un qui m'est encore étranger, et puis tant que je ne lui ai pas donné le trésor que je possède, il n'est pas grand-chose pour moi. Que vais-je avoir à aimer en lui? Et surtout quand il s'agit de Dieu, que Dieu va-t-il aimer dans la créature tant qu'il ne lui a pas donné ses bienfaits et ses trésors? Et justement, saint Thomas d'Aquin nous avertit que nous aimons parce que nous trouvons des qualités dans les créatures. Dieu aime pour donner les qualités. Alors, c'est l'amour du bien, c'est ce l'amour de la Sainte Trinité, ce trésor qui est dans la Sainte Trinité, trésor de perfection de la vérité de Dieu qui se trouve dans le Verbe, trésor de la perfection de l'amour qui se trouve dans le Saint-Esprit, et notre Seigneur communique cet amour, communique l'amour du Saint-Esprit, l'amour qu'est le Saint-Esprit. Il le fait vivre en nos âmes, il le fait gratuitement, sans que rien en nous ne l'exige, ou plutôt, il nous a créés pour pouvoir nous le donner. Alors, cette charité vient de très haut, et il convient de nous y attarder. Je pense qu'il est nécessaire de ne pas toujours faire des sermons pratique, utilitariste plutôt, devrais-je dire, utilitaire, des sermons de ce qu'on appelle la morale. En réalité, je crois que là, nous montons à la source de la morale, à la vraie source de la morale, à la contemplation de la perfection de Dieu qui nous est communiquée. Jésus-Christ s'y prend d'une façon très simple par la parabole. Il est le pasteur, c'est facile, le pasteur, les brebis. Mais les textes sacrés nous font pénétrer dans ce mystère. Et je crois qu'il est nécessaire que nous nous arrêtions pour nous enthousiasmer de cette perfection qui nous est communiquée. Je suis persuadé que la crise est en grande partie due à l'ignorance. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Pidis, et qui a écrit une encyclique sur ce sujet, Acerbo Nimis. Mais ce n'est pas que l'ignorance des choses les plus élémentaires. Je crois qu'il y a fondamentalement une ignorance de la grandeur de Dieu et de la grandeur du don qui nous est fait. Monseigneur Lefebvre s'est pratiquement consacré à nous révéler la grandeur du don, la grandeur de Jésus-Christ, la divinité de Jésus-Christ. On aurait peut-être pu croire que dans la crise actuelle, il aurait dû être plus concret, plus pratique. Quand on voit combien peu l'ont suivi, on pourrait peut-être regretter qu'il n'ait pas été plus précis dans la formation qu'il donnait. Et cependant, je crois que la crise venait au contraire de l'ignorance des choses les plus élevées et qu'il a eu raison de nous transmettre ce trésor le plus élevé qui soit. Et s'il avait été plus concret, eh bien, je ne sais pas si cela aurait changé grand-chose, car c'est une question de foi, primordialement. Alors donc, contemplons cette beauté, cette grandeur de Dieu. C'est pourquoi notre Seigneur dit, « Comme le Père me connaît, je connais le Père. » Notre Seigneur monte très haut pour parler du bon pasteur. Et aussitôt, il ajoute, « Et je donne ma vie pour mes brebis. » Donc, cette charité de donner sa vie vient directement de la connaissance mutuelle du Père et du Fils. Ce trésor de charité se poursuit, disons que le bon pasteur, la deuxième qualité du bon pasteur, la deuxième définition, enfin pas définition, l'élément essentiel de la définition du bon pasteur, c'est qu'il nous communique la foi. Mais qu'est-ce que la foi? La foi est la révélation du Père. Notre Seigneur est le bon pasteur parce qu'il nous dévoile la vie de la Sainte Trinité. Comme mon Père me connaît, je le connais, et il nous transmet cette connaissance qu'il a du Père. Et cette connaissance pour nous est encore voilée. Voilà pourquoi Saint Paul dit que « Fides est de non visis », la foi concerne les choses qu'on ne voit pas, et pourtant elle nous donne une certitude plus grande que toutes les choses d'ici-bas qui nous sont dévoilées. Parce que les choses d'ici-bas sont des choses créées, elles n'ont pas la certitude de la vérité incréée de Dieu. Alors, notre Seigneur nous mène au pâturage, il nous nourrit, et la foi est notre nourriture. Pourquoi est-elle notre nourriture? Parce que c'est elle qui enthousiasme nos âmes. Nos âmes sont faites pour lui. Saint Augustin dit, notre cœur est inquiet tant qu'il ne se repose pas en vous, Seigneur. Notre cœur a été créé pour lui. Notre intelligence a été créée pour lui. Notre âme a été créée pour être le temple du Saint-Esprit et pour nous enthousiasmer dans l'espérance qui nous fait attendre la pleine possession parfaite. Nous avons une possession ici-bas, une possession de Dieu, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit, et nous attendons la pleine possession parfaite. Alors, la deuxième partie de ce sermon, notre Seigneur connaît ses brebis et il va à la recherche des brebis. Vous avez la parabole célèbre. Le pasteur va à la recherche de la brebis qui était perdue. Et l'interprétation, c'est que cette brebis est le pécheur qui s'est égaré et que notre Seigneur ramène dans le troupeau. On pourrait faire une autre interprétation, accommodatis, qui n'est pas peut-être le sens vraiment voulu par notre Seigneur, mais malgré tout, le monde met autour de nous des épines. Et certes, nous ne sommes pas perdus. Il faut faire bien attention à cela. Dans le monde actuel, dans la crise actuelle, ceux qui sont perdus, c'est la masse des autres, la masse de ceux qui n'ont pas la foi, la masse des ennemis de l'Église. Ceux qui sont perdus, ce sont les Romains actuels. Ils ont beau tenir les postes de commande, ils sont des pilotes perdus dans le naufrage. Et nous qui avons la boussole, nous qui avons notre Seigneur, nous qui sommes avec le pilote des pilotes, nous ne sommes pas perdus. Mais il est vrai que nous sommes au milieu de la tempête que le monde suscite contre les fidèles, contre les brebis. Et alors, notre Seigneur a pour nous une direction particulière. Et si l'Église aujourd'hui nous rappelle que notre Seigneur a souffert la persécution, qu'il a été maudit, on a dit du mal de lui, qu'on l'a fait souffrir, qu'on l'a menacé, qu'on l'a traîné indignement en justice, si tout cela est rappelé, parce que notre Seigneur est un exemple, l'Épître le dit bien, alors il est normal que les chrétiens ensuite soient dans la même situation, que eux aussi soient maudits, qu'on les traîne injustement en justice et qu'on les calomnie et qu'on les menace. Alors, ces brebis qui sont ainsi maltraitées à l'exemple de leur pasteur, le pasteur les voit, les connaît. Et alors, la première chose, il les connaît comme le Père connaît. Nous avons tous appris au catéchisme que Dieu voit tout, il sait tout, tout ce que je fais, tout ce que je pense. Mais du catéchisme, nous retenons que si nous faisons quelque chose, Dieu en prend connaissance. Ça va beaucoup plus loin. Notre Seigneur nous connaît parce qu'il nous a fait dans sa sagesse, puisqu'il est le Verbe, la sagesse du Père. Il a fait notre perfection, il a sur nous des desseins préalables avant que nous existions. Il pensait déjà à nous dans l'éternité. Et il connaissait d'avance les situations difficiles dans lesquelles sa sagesse permettait que nous nous trouverions, et nous nous trouvons aujourd'hui, pour une plus grande foi, pour une plus grande fidélité. Et ce pasteur a anticipé, si je puis dire les choses. Sa grâce est première, sa grâce nous précède. sa puissance nous précède. Dans la crise actuelle, c'est capital. Nous sommes d'autant moins pris au dépourvu que notre Seigneur n'est évidemment pas pris au dépourvu. Au contraire, il a anticipé, il a voulu, il a prévu dans sa sagesse. Et par conséquent, tout va bien. Puisque nous sommes avec lui, tout va bien. Alors, comment allons-nous nous-mêmes profiter de cet évangile, profiter des bons services et des bons offices, je cherchais le terme, des bons offices de notre Seigneur, le bon pasteur. Premièrement, je connais mes brebis me connaissent. Il y a une reconnaissance de notre Seigneur, un peu comme un fils. Un fils ne connaît pas son père comme il connaît un autre homme. Vous avez deux hommes, il ne les connaît pas de la même manière. Si l'un est son père et l'autre non, il y a une connaissance qui est plus profonde, qui n'est pas seulement une connaissance plus intime, mais qui est aussi une reconnaissance. Il reconnaît son père. Il y a une fierté du père et une appartenance au Père, la même chose de nous envers notre Seigneur Jésus-Christ. La crise rend cela certainement plus net, plus important, enfin, nous en montre l'importance plus exactement. Cela a toujours été important, mais la crise nous montre à l'évidence l'importance de reconnaître Jésus comme notre Père, et notre pasteur et Dieu comme notre Père, et non pas tous ceux qui voudraient prendre sa place. Il y a le pasteur, il y a les mercenaires ne sont pas des pasteurs, les mercenaires ne méritent que le mépris, le pasteur mérite notre honneur. Et évidemment, il y a les envoyés du bon pasteur, et nous devons reconnaître les bons envoyés du bon pasteur, comme nous avons reconnu Monseigneur Lefebvre. On pourrait dire que aujourd'hui, chacun a la responsabilité, j'allais dire presque d'un évêque. C'est-à-dire que c'est à chaque père de famille de savoir quel évêque il suit, alors qu'autrefois, l'évêque lui désignait au père de famille les pasteurs envoyés par Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est à chacun d'entre nous d'entendre la voix du bon pasteur et de ceux que le bon pasteur a envoyés près de nous. Deuxièmement, le bon pasteur a porté sa croix, il nous donne l'exemple et nous devons porter notre croix. Il y a un lien entre le fait que nous connaissons notre Seigneur et que nous portons notre croix. Notre Seigneur dit dans l'Évangile que les brebis entendent la voix. Quand on lit le commentaire de saint Thomas d'Aquin sur ce sujet, entendre la voix, dit-il, c'est obéir au commandement. Mais je vous ai dit dans un sermon il y a peu de temps, que notre Seigneur avait donné peu de commandements. On pourrait même dire pas de commandements. Parce que le commandement d'aimer n'est pas vraiment un commandement. C'est la nature des choses. Il a tracé une voie. Il a communiqué un enthousiasme. Cet enthousiasme, c'est l'enthousiasme de la charité. Et alors, je crois qu'il faut que c'est pour cela que notre Seigneur dit que les brebis entendent sa voix et qu'il ne dit pas « elles obéissent ». Il s'agit de plus que d'obéir, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus élevé. Il y a entre les brebis et le pasteur une amitié, une confiance, une unité qui fait qu'on suit avec enthousiasme. Et alors, nous entendons la voix de notre pasteur et nous constatons qu'il a donné sa vie pour nous. Et par conséquent, parce qu'il est notre exemple, nous donnons notre vie pour le prochain. Il y a plusieurs manières de donner sa vie pour le prochain. Vous avez celle au sens propre, vous avez des évêques qui ont donné leur vie, qui se sont offerts aux persécuteurs pour protéger le troupeau. Vous avez des prêtres, on en a eu beaucoup pendant les guerres de Vendée, qui se sont offerts aux bourreaux pour protéger le troupeau. C'est une manière. Il y a une autre manière qui consiste à consacrer notre vie aux brebis qui ne sont pas du bercail, de manière à les amener au vrai bercail, à l'unique bercail. C'est ce qu'a fait, par exemple, Mgr Lefebvre, qui n'est pas mort martyr, mais qui a vécu un martyr de l'amour de Dieu. Il était préoccupé, profondément préoccupé, de communiquer l'amour de Dieu. Je discutais il y a peu de temps avec une mère de famille qui s'interrogeait sur la meilleure, sur les écoles dans lesquelles elle pourrait mettre ses enfants. Et très justement, elle pose la question par rapport à la vocation. Et je lui dis, Madame, on n'a rien compris à l'avenir d'un jeune, au rapport entre la vocation et le mariage, tant qu'on n'a pas compris que le jeune a le choix entre se sacrifier ou se sacrifier. Se consacrer ou se consacrer. Se consacrer dans le mariage pour continuer, en tant que père ou mère de famille, l'œuvre du bon pasteur, se consacrer dans le sacerdoce pour continuer la mission du souverain prêtre qui s'offre sur la croix. Et vous me direz alors, et les religieux et les célibataires? Les célibataires sont consacrés au culte du pasteur qui s'est offert pour ses brebis. Et finalement, c'est sacrifice ou sacrifice ou sacrifice. Consécration ou consécration ou consécration. Il est évident que si on présente à un jeune ou la consécration et le sacrifice dans la vie sacerdotale ou religieuse, ou la liberté dans le mariage, alors tout est faussé. Ceci pour dire que nous devons redécouvrir ce qu'est vraiment la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut-être nous apparaît comme épouvantable, qui nous épouvante. Et lorsque nous avons compris qui est le bon pasteur et ce qu'il fait, et qu'il donne sa vie pour ses brebis, alors, à ce moment-là, la croix de notre Seigneur et notre croix que nous devons porter à sa suite nous apparaît sous un tout autre aspect. Il n'y a pas moyen d'exercer cette mission d'aller chercher les brebis des autres bercail, pour qu'il n'y ait plus qu'un seul bercail, il n'y a pas d'autre moyen que de commencer par les œuvres de miséricorde, qui font partie de l'éducation, parce qu'elles font partie de la vie chrétienne, parce qu'on les trouve même dans le monastère bénédictin, parce que Saint Benoît sait qu'un chrétien qui ne pratiquerait pas les œuvres de miséricorde ne serait pas un chrétien. Il y a là une... et les œuvres de miséricorde corporelles et surtout spirituelles. Je ne vais pas vous faire ce sermon sur l'apostolat, mais je vous, dans ce sermon, j'ai cherché à vous donner les sources les plus profondes, non seulement de notre vie chrétienne, mais ce qui va donner la raison de nos actions, de notre apostolat, de notre présence dans le monde. Et quand on voit le nombre de bourreaux qui se sont convertis à l'époque des persécutions romaines, qui se sont convertis en voyant les chrétiens pratiquer la charité, quand on voit saint Paul converti par saint Étienne, je suis certain que les souffrances de la crise actuelle, qui ne vont pas aller en diminuant, les souffrances de la crise actuelle vont nous permettre, que nous le sachions ou que nous ne le sachions pas, que nous connaissions ou que nous ne connaissions pas les fruits que cela portera, en tout cas, ces souffrances non seulement nous permettront d'être unis à notre Seigneur Jésus-Christ, mais très certainement convertiront certains de nos persécuteurs. C'est évident. Et je termine. L'épître de Saint Jacques nous dit que celui qui ramène un pécheur couvre ses propres péchés. On peut résumer cela par un adage, celui qui sauve une âme, sauve son âme. Parce qu'il se met à la suite du bon pasteur. Et nécessairement, il arrive au bercail éternel. Alors, demandons à la Sainte Vierge, qui nous a été donnée par notre Seigneur Jésus-Christ pour donner toute la richesse maternelle, exprimer de façon maternelle toute la richesse de Dieu. Cette richesse qui nous dépasse infiniment, que je vous ai exprimée peut-être de façon un peu intellectuelle, Monseigneur Lefebvre faisait des sermons un petit peu théoriques, un petit peu intellectuels, mais il n'y a pas moyen d'entrer dans le mystère de Dieu sans se donner cette peine, bon, légère heureusement, de nous abstraire des considérations trop sensibles et trop imagées. Donc, malgré tout, notre Seigneur a voulu se mettre à notre portée et il a donné la richesse de l'amour maternel. Il a concrétisé, il a complété, compléter n'est peut-être pas le terme, il a achevé la perfection de son amour dans l'amour maternel. Alors demandons à la Sainte Vierge qu'elle nous donne cet esprit du bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis et qu'elle nous rende fiers du pasteur, son fils, Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.